Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons laissé Job sur son fumier, en train de gratter le pu qui sort de ses plaies. Trois amis entendent parler de ce qui lui arrive, et vinrent chacun de chez soi. Ils avaient convenu, nous dit l'Écriture sainte, de le visiter pour le consoler. Mais, en le voyant, ils ne le reconnurent pas. C'est l'attitude, mes bien chers frères, de ceux qui ne connaissent pas l'Église, ou plus exactement, de ceux qui, bien qu'ils connaissent l'Église, ne la comprennent pas. Ne comprennent pas son amour de la pauvreté, son amour de l'humilité, et, ce qui est un scandale, bien plus pour eux, son amour des opprobres, c'est-à-dire qu'on se moque d'elle. Et quand je dis l'Église, bien entendu, tous les bons chrétiens qui forment l'Église, car si l'Église aime la pauvreté, l'humilité, les opprobres, c'est parce que ceux qui la composent aiment la pauvreté, l'humilité et les opprobres. Ceci va nous donner la première partie de ce sermon, et nous allons voir dans la deuxième partie quelle est l'attitude de Job et quels enseignements nous pouvons en tirer pour notre vie personnelle. La première partie, en nous montrant l'attitude des amis de Job qui ne le comprennent pas, et donc qui ne comprennent pas les bons chrétiens ni l'Église, cela va avoir le double avantage de nous rassurer face à ceux qui nous traitent de cette manière, surtout dans la situation actuelle de l'Église, et puis également de nous faire une leçon à nous aussi. D'une certaine manière, ne sommes-nous pas comme les amis de Job qui sont scandalisés ou au moins qui ne comprennent pas ce que Dieu demande à son Église? Nous suivons Saint Grégoire le Grand et nous tirons double profit de cette étude, d'une part le profit de l'Écriture sainte, d'autre part le profit de ce grand pape qui, parce qu'il était pape, était évidemment pasteur, responsable des pasteurs, et a donné son enseignement pour la perfection du peuple chrétien. Les amis de Job ne le reconnaissent pas et ne reconnaissent pas l'Église parce que celle-ci désire recevoir ses mots pour parvenir purifiée à la récompense éternelle. Ce sont les propres paroles de Saint Grégoire le Grand. Et si je vous les cite, ces paroles, c'est parce qu'elles ont un poids particulier. C'est l'enseignement de l'Église, ce qu'on appelle le magistère ordinaire. Ce n'est pas la voix d'un simple prédicateur, encore que même cette voix doit être écoutée lorsqu'elle est l'écho de l'enseignement de l'Église. J'espère que c'est le cas pour ce que je vous enseigne. Mais c'est vraiment la voix de l'Église qui nous parle. Donc l'Église désire recevoir les mots dont Job est affligé. Et cela pour parvenir purifié à la récompense éternelle. Saint Grégoire ajoute, elle craint la prospérité, elle se réjouit d'être enseignée par la discipline. Et au contraire, les gens du monde donnent un grand prix à la vie présente. Ils ne méditent pas ce qu'ils voient. Ils sont stupéfaits de voir l'Église prospérer dans l'adversité. Ils n'ont pas l'expérience parce qu'ils ne veulent pas l'acquérir. Mais bien, chers frères, cela a toujours été l'attitude du monde envers l'Église. Même dans ces périodes de prospérité, l'Église surprend les gens du monde parce qu'elle aime être au pied de la croix, elle aime imiter notre Seigneur Jésus-Christ, elle aime, comme la Très Sainte Vierge le demande à Fatima, mais ça n'a rien de nouveau, ça n'est qu'un rappel, elle aime prier et faire pénitence pour la conversion des pauvres pécheurs. C'est encore plus vrai dans la situation actuelle de l'Église, ceux qu'on a appelés les traditionalistes ont été méprisés. Et puis, comme même alors, beaucoup se sont scandalisés de devoir aller jusqu'au bout de la fidélité, ont préféré rester en arrière. Nous verrons cela dans la suite. Il reste le petit troupeau de la fidélité catholique, qui n'est pas le seul, bien entendu. Il y a d'autres chrétiens dans l'Église, c'est évident, dans l'Église du silence, par exemple. Et puis, même dans les pays comme la France, il y a des gens qui demeurent fidèles et qui, pour cette raison, sont humiliés, méprisés, séparés de leur famille. Eh bien, disons-nous que ceux qui nous critiquent ainsi, et même qui nous méprisent, sont des gens qui n'ont pas compris. Les amis de Job, voyant Job en cet état, déchirent leurs vêtements, et ils répandirent de la poussière sur leur tête devant le ciel, sont les paroles de l'Écriture. Le commentaire de saint Grégoire, « Leurs vêtements, ce sont leurs amis ». Il est assez fréquent dans la symbolique chrétienne que les vêtements désignent les amis. Or, ces vêtements, ils les déchirent parce que leur amitié repose sur le mépris de la fidélité de l'Église et n'est non pas une vraie amitié dans laquelle ils cherchent le bien, le vrai, le ciel, l'imitation de Jésus-Christ, l'imitation de la croix. Et par conséquent, dès que l'un des amis gêne l'autre ami, il y a des divisions. C'est flagrant chez les protestants, qui ont méprisé l'Église à leur époque, parce que justement, eux cherchaient les richesses et l'Église les méprisait. Ils ont passé leur temps à se diviser, non seulement dans la doctrine, mais également pour des questions d'argent. Ceux qui sont choqués par l'amour de l'Église pour la pauvreté et pour l'amour de Job sur son fumier, son amour de Dieu, ceux qui sont choqués ne méditent pas les choses du ciel. Au contraire, ils se mettent de la poussière sur la tête devant le ciel, c'est-à-dire qu'ils obscurcissent leur intelligence et ne voient plus la lumière du ciel. Le ciel continue à les éclairer, mais eux ne reçoivent pas cette lumière. Ils n'ont pas envie de la recevoir, et même, éventuellement, et souvent, hélas, ils font volontairement obstacle à cette lumière, parce que cette lumière les choque, puisqu'elle inspire un tel comportement. Ce sont tous ceux qui, ne voulant pas accompagner Job dans ses épreuves, ne comprenant pas ce que Dieu fait et quel don il fait à Job dans les épreuves, vont chercher des faux arguments, comme nous allons voir que les amis de Job le font. Enfin, les amis de Job s'assirent avec lui sur le sol, par terre, et demeurèrent silencieux 7 jours et 7 nuits. C'est ce que nous dit l'Écriture sainte. Ils s'assoient par terre avec Job, car ils ont une attitude d'humilité. Saint Grégoire le Grand, qui était perspicace, qui savait ce qu'est la nature humaine, dit « Ils sont d'accord avec l'Église sur l'incarnation, mais ne vont pas plus loin. » Et cela, mes bien chers frères, c'est terriblement d'actualité. C'est pour cela que la messe de Paul VI, le rite de Paul VI de la messe, a été fait pour tous les amis de Job qui ne comprennent pas la lutte de l'Église contre le monde moderne, qui ne comprennent pas que l'Église préfère être pauvre et blessée plutôt que de rejoindre les mondains, les amis du monde. Pour que tout ceci, donc, puisse participer à une messe qui donne à tous l'impression qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient en l'incarnation, mais qui a évacué, autant que possible, la rédemption et surtout l'ascèse, le martyre, la lutte. La religion moderne, qui est une religion de tolérance, l'œcuménisme, la liberté religieuse, tout cela, c'est une religion qui affirme croire encore à l'incarnation, et c'est vrai, mais qui n'accepte plus les conséquences de l'incarnation, c'est-à-dire la rédemption, la nécessité de la rédemption et la lutte. C'est une église qui met de côté l'ascèse. Elle a supprimé quasiment tous les jours de jeûne. Elle a supprimé le maigre du vendredi. Elle ne parle plus jamais de faire pénitence parce qu'elle est scandalisée par cela, comme les amis de Job étaient scandalisés par l'attitude de Job et ne le reconnaissaient plus. Avant d'achever cette première partie, mes bien chers frères, posons-nous la question, n'avons-nous pas, je ne dis pas toujours, mais certaines fois, dans une certaine partie de notre vie, la même attitude que les amis de Job? Ne sommes-nous pas, peut-être, scandalisés ou trop scandalisés par l'état de l'Église aujourd'hui, scandalisés par la petitesse de la fidélité catholique, scandalisés par les efforts et l'amour des opprobres qui aujourd'hui sont demandés à ceux qui veulent demeurer fidèles. Un examen de conscience sur ce point sera le bienvenu et nous devons demander à la Sainte Vierge de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Ab occultis meis mundame domine, purifiez-moi, Seigneur, de ce qui m'est caché. Et cela nous introduit, mes bien chers frères, à la deuxième partie du sermon, qui est la réponse de Job. Deux choses. Job gratte le pu qui sort de ses plaies, et il est assis sur son fumier. Il gratte le pu qui sort de ses plaies, c'est qu'il se purifie de ses fautes, dit Saint Grégoire le Grand, et notamment de ce qui sort de lui, c'est ça le pu, c'est ce qui sort d'une plaie, c'est-à-dire ses mauvaises pensées. Et Saint Grégoire le Grand va insister particulièrement sur l'attitude de Job par rapport aux mauvaises pensées. Quand je dis mauvaises pensées, il s'agit de toutes mauvaises pensées, pas seulement celles contre la chasteté, bien entendu. Il s'agit des pensées d'orgueil, pour ceux qui tiennent bon et qui sont en danger de s'enorgueillir d'avoir tenu bon, les pensées de mépris envers les autres, les pensées d'indépendance, les pensées de lassitude, les pensées de confort, les pensées de richesse, les pensées de lassitude, par exemple, dans le combat, plus d'un s'est fait avoir par la lassitude, les pensées d'indépendance. Je pense, par exemple, à vous, mesdames, qui découvrez, en vous approchant de plus en plus de Dieu, qui découvrez la soumission que la femme doit à son mari. Attention, j'ai pas dit la soumission universelle, j'ai dit celle qu'elle doit à son mari. Et à qui le démon souffle des pensées d'indépendance, des choses qui sortent de votre ancienne vie, mesdames, qui s'écoulent d'une plaie ancienne et qu'il faut gratter et qu'il faut laver. Ces pensées d'indépendance, messieurs, vous guettent aussi d'une façon différente, bien entendu. Elles s'accompagnent souvent d'une pensée de lassitude. Ne pas être toujours sur la brèche, toujours à devoir corriger les enfants, les reprendre, les enthousiasmer. Quand je dis corriger, c'est les remettre dans la voie droite, hein, c'est pas punir. Une correction, c'est ce qui rend rectus, c'est-à-dire droit. C'est pas une punition. Certaines punitions sont des corrections, mais toutes les corrections ne sont pas des punitions. Et c'est beaucoup plus difficile de corriger sans punir que de punir. Et puis, si votre épouse doit vous être soumise, messieurs, cela suppose qu'elle ait confiance en vous, donc que vous soyez attentifs, cela prend du temps, cela prend de l'énergie, cela oblige à sortir de soi-même. Bien, je vous ai pris ces deux exemples, parce que ce sont des exemples fréquents sur lesquels Mgr Williamson revenait souvent. Mais tous ceux qui m'écoutent peuvent faire un examen de conscience et voir, pour chercher à voir quel est le pu qui s'écoule de leurs blessures à travers les mauvaises pensées, vous voyez. On fait souvent un examen de conscience sur les actes, et il faudrait faire un examen de conscience sur les pensées, car Saint Grégoire le Grand nous dit, même si elles ne parviennent pas jusqu'à leur effet, elles sont illicites, c'est-à-dire contraires à Dieu. Saint Grégoire nous dit que l'Esprit parfait veille avec soin non seulement à refuser toute action perverse, mais même à essuyer toute turpitude qui coule de son esprit. Alors ne vous y trompez pas, la turpitude, c'est pas les grands crimes. Et turpisse tout ce qui est honteux. C'est honteux pour un père de ne pas être attentif à sa femme et ses enfants. C'est honteux pour une femme de chercher à plaire à d'autres qu'à son mari. Et c'est honteux, mes bien chers frères, pour ceux qui ont compris l'objet de la crise actuelle et qui sont restés fidèles, c'est honteux d'avoir une pensée de lassitude. Saint Benoît nous dit, si nous voulons habiter dans la demeure du ciel, il faut prendre les plus petites pensées du diable et les briser sur le Christ, comme on brise sur un rocher. Et il dit cela dans le prologue, c'est-à-dire dans le tout début de la règle. Il dit aux moines qui arrivent au monastère, « Mes chers amis, écoutez la sagesse d'un père qui vous aime. » Et dans les conseils qu'il leur donne dès le début, qui sont comme la base, qui sont le début, le fondement, il leur dit ce que je viens de vous lire. « Il faut prendre les plus petites pensées du diable et les briser contre le Christ, les briser aussitôt, sans traîner, sans tarder, avec énergie. On ne laisse pas traîner dans l'esprit des choses qui amollissent. » Le résumé de ce sermon, mes bien chers frères, première partie, ceux qui ne sont pas de Dieu ne reconnaissent pas l'Église, ni les bons chrétiens, surtout dans leurs épreuves. Faisons attention à ne pas être comme eux. Deuxième partie, pour cela, pour demeurer fidèles, grattons ce qui coule de nos blessures. J'ai dit le pus, mais c'est toute liqueur qui coule d'une blessure. Comment on appelle ça? La lymphe. Même si elle n'est pas du pus, on la lave. Surveillons nos pensées, faisons l'examen de conscience sur nos pensées. Et soyons dans une grande reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous, le bien et même ce que nous appelons, nous, le mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.